Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, en 2016, Jean-Blou Agrobiotech, comme toutes les autres facultés de l'ULG, a actualisé, finalisé un plan stratégique dans lequel nous affirmions notre ambition d'être acteurs des transitions. Et quand on dit transition, parfois je crois que ce sont le mot rupture est parfois plus adéquat, qui touche l'agriculture et l'alimentation. Et je pense qu'effectivement, nous sommes globalement, en tout cas, condamnés à concevoir de nouveaux systèmes de production reposant sans doute sur une meilleure prise en compte des composantes biologiques des agro-systèmes, et c'est l'essence même de l'agroécologie. Jean-Blou Agrobiotech a une ferme expérimentale que vous connaissez, Agriculture is Life, et cette ferme, l'objectif de cette ferme est d'appréhender l'agroécosystème de manière globale et de promouvoir le développement d'outils, de techniques, de connaissances qui améliorent la performance de l'agro-système en termes notamment de services écosystémiques. Tout ça n'est qu'une première phase, initiée il y a 4-5 ans. Nous souhaitons renforcer cette ferme expérimentale et le comité de gestion vient effectivement de décider, peut-être de donner une nouvelle impulsion. Nous sommes par exemple conscients des ruptures qui s'annoncent aussi en termes d'organisation de notre recherche. Et à titre personnel, je suis assez convaincu que nos institutions doivent s'engager dans des démarches que j'appellerais de co-construction de l'innovation avec les usagers, usagers qui sont certainement les agriculteurs, mais qui sont certainement aussi les citoyens. Et nos fermes expérimentales doivent devenir de véritables living labs sans lesquels l'expertise des chercheurs et les résultats de leurs recherches seront toujours suspects aux yeux d'une partie de la population. C'est à mes yeux une démarche essentielle si nous voulons réconcilier notre société et son agriculture. Alors le concept d'agroécologie qui s'est développé depuis une dizaine d'années s'avère extrêmement englobant, pluriel, complexe. Et nous avons souhaité que cette chaire franquise soit l'occasion pour nous de réfléchir, de décrypter cette complexité, tant au niveau de la recherche qu'au niveau de la formation. Et je suis très heureux que notre conférencier ait effectivement, notamment, une des conférences qui est dédiée spécifiquement à l'enseignement de l'agroécologie. Thierry Doré est ingénieur agronome, docteur en agronomie et détenteur d'une HDR. Il est professeur d'agronomie et directeur scientifique d'AgroParisTech, avec qui l'ULB et l'ULG co-organisent un master en agroécologie. Au-delà de ses activités de formation, d'ingénieur et de master, il s'intéresse aussi à la formation continue et est président du comité d'orientation du programme « Enseigner à produire autrement » que coordonne le ministère ayant en charge l'agriculture en France. Ces thématiques de recherche portent sur la conception et l'évaluation des systèmes de culture en conditions tempérées mais également tropicales. Il a promis lors de ses responsabilités au niveau de son unité de recherche et de l'INRA des axes de recherche portant notamment sur la valorisation des régulations biologiques dans la conception de systèmes de culture et le développement d'une agronomie plus globale adaptée aux enjeux planétaires. Je remercie Thierry Doré d'avoir accepté cette chaire franquie et je lui donne la parole sans plus attendre. Merci.
Merci, monsieur le doyen, donc, monsieur le recteur, madame la députée, messieurs les doyens, si j'ai bien entendu, mesdames, messieurs, je suis très content d'être présent, très flatté d'avoir été proposé pour cette chaire franquie et très heureux que le comité de la Fondation ait accepté ma candidature. Si jamais je parle trop fort, vous me prévenez, parce que j'ai une oreille qui est momentanément bouchée, je n'entends que d'un côté, peut-être que je vais hurler dans le micro, auquel cas il faudra que je baisse le volume. Donc la thématique sur laquelle je vais faire ces 5 conférences est sur l'agroécologie. Et j'ai proposé, et le comité l'a accepté, que je fasse la conférence inaugurale sur le thème l'agroécologie, de quoi parlons-nous? Si vous entendez parler de l'agroécologie à l'heure actuelle, que ce soit en France ou dans le monde, c'est pas une définition monolithique qui s'impose, c'est une constellation. Il y a autant de définitions de l'agroécologie que d'étoiles dans le ciel. finalement, on a besoin certainement d'y voir un peu plus clair et de fixer un certain nombre d'idées par rapport à cette diversité des acceptions de l'agroécologie. Et c'est ce que j'ai tenté de faire d'une manière pas trop longue. Le doyen me fait des recommandations, mais il ne faut pas que tu sois trop long. Donc je vais essayer de me tenir aux éléments essentiels. Alors de quoi parlons-nous quand on discute d'agroécologie ? Juste pour fixer au départ, on est bien d'accord, j'espère tous, que les agricultures à l'heure actuelle ne donnent pas totalement satisfaction du point de vue de ce que les sociétés, partout sur la planète, attendent de l'agriculture. Donc on est face à une situation où il faut contribuer au développement de nouvelles formes d'agriculture qui répondront mieux aux attentes des sociétés vis-à-vis de cette activité humaine. En gros, l'agroécologie, ça sert à ça. Et juste pour illustrer une des différences entre les attentes et les services rendus par l'agriculture, en me focalisant sur un seul des services écosystémiques de l'agriculture, qui est la production, vous voyez ici les évolutions de la production par personne sur le plan alimentaire au cours du temps dans les différents continents, avec le monde qui figure ici, l'Afrique qui figure ici et l'Asie qui figure ici. On a eu au cours des dernières décennies une augmentation significative de la production alimentaire par habitant dans certains continents et dans d'autres continents, une stagnation, voire une dégradation. Et on a la même chose, c'est-à-dire une très forte hétérogénéité de la satisfaction des besoins alimentaires, ou de la production alimentaire, à l'intérieur du continent africain, avec des pays qui réussissent à décoller et des pays qui voient diminuer leur production alimentaire par habitant. Ce qui est évidemment la conjonction entre la production brute et l'évolution démographique. Je ne prends pas d'autres exemples, mais évidemment, il y a d'autres besoins de l'humanité, des sociétés, auxquels l'agriculture doit faire face, qui ne sont pas seulement alimentaires et qui ne sont pas correctement remplis, des besoins sociétaux, des besoins environnementaux en particulier. Alors, pour mon exposé, ce que j'ai choisi de faire, c'est simplement de faire passer quelques idées. Voilà, quand ça sera en italique, j'essaye de faire passer une idée. Il y en a 5 ou 6, je ne me souviens plus. La première idée, c'est de prouver, de montrer que l'agroécologie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'enracine dans l'histoire et qui s'incarne avec quelques figures historiques importantes. Et si l'agroécologie a pu décoller, c'est grâce à ces figures historiques. Mais ces figures historiques, elles ne sont pas monocolores, elles sont assez diverses. Et j'ai choisi de tirer 3 fils un peu historiques de personnes qui ont contribué au développement de l'agroécologie selon des voies qui sont différentes et qui sont dans une certaine mesure complémentaires. La première de ces voies, elle est illustrée ici par cette capture d'écran qui est une capture d'écran historique. J'ai fait cette capture d'écran, je ne me souviens plus de l'année précisément, du millésime, si c'est 2008 ou 2009, peu importe, mais en gros une petite dizaine d'années. Et c'est une capture d'écran du site internet du CIRAD qui présentait l'agroécologie à l'époque, avec cette figure ici qui est Lucien Segui, un chercheur du CIRAD, CIRAD, organisme de recherche français, qui travaille dans les pays du Sud. Lucien Segui travaillant sur les systèmes sans travail du sol avec couverture végétale, les SCV, au niveau du Brésil et de l'Amérique latine d'une manière générale. Ces systèmes avec suppression du labour et couverture du sol permanente, soit vivante, soit morte. Pour le CIRAD et pour la recherche française à l'époque, l'agroécologie, c'était le semis direct sur couverture végétale permanente, c'était le SCV, et rien d'autre. Et donc l'agroécologie, c'était une pratique agricole particulière, cette pratique de SCV. Et quand on parlait d'agroécologie en France, en tout cas dans le milieu de la recherche et dans les milieux scientifiques, c'était quasi exclusivement à ça que l'on s'intéressait. Et le CIRAD a développé ses systèmes au début des années 90, avec succès, dans les régions tropicales du Brésil. Et ces systèmes-là, grâce au lobbying réalisé par le CIRAD, se sont développés de manière très significative, le CIRAD ayant réussi a influencé, de manière positive, hein, ce n'est pas négatif de ma part, l'AFD, l'Agence française de développement, qui est l'organisme qui finance les programmes de développement dans les pays du Sud. Vous avez ici, datant de 2006, le plan d'action agroécologie développé par l'AFD, qui est de fait quasi exclusivement dédié à la promotion des SCV, des systèmes sans travail du sol avec couverture permanente, dans les pays du Sud. C'est illustré ici à travers cette brochure qui développe l'agroécologie vue du côté du CIRAD, selon la plus grande tradition de Lucien Segui, avec cette promotion des SCV. Si on regarde l'influence que le CIRAD avait à l'époque sur l'agroécologie en France, vous avez ici les résultats d'une cartographie qui a été réalisée par mes collègues Bellon et Olivier, qui représente les liens qui existent entre les différents sites Internet en 2011, si ma mémoire est bonne, février 2011, pour les sites Internet francophones. Quand on parle d'agroécologie, on voit apparaître deux ensembles. Un ensemble ici, dont on va reparler très bientôt, autour de Pierre Rabhi, de Colibri, de Terre et Humanisme, et un ensemble ici, autour de l'agriculture de conservation, ayant influencé de manière significative l'AFD, la FAO et un certain nombre d'associations de nature différente comme l'AEI ou AgriSud. Donc on avait à l'époque deux pôles en France, le pôle dont je vais parler ensuite, et puis ce pôle très fort, issu des recherches du CIRAD sur les SCV, avec une agroécologie essentiellement dédiée à une technique culturelle particulière. Depuis, les choses ont évolué, ne serait-ce que parce que ce qu'un tout agronome aurait pu dire au départ à ceux qui faisaient la promotion des SCV, il n'y a pas une technique qui, dans le monde, marche de manière universelle. Quelles que soient les techniques agricoles, elles rencontrent leurs limites en fonction des situations pédoclimatiques, de milieux écologiques et de conditions socio-économiques qui sont rencontrées. Il y a un papier qui vient de sortir en fin d'année dernière, fin 2016, qui évalue de manière comparative les systèmes traditionnels, conventionnels on va dire, et deux systèmes de SCV dans différentes régions d'Afrique de l'Est, du Sud-Est. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez différentes années expérimentales, on regarde la récolte du maïs, on compare les trois systèmes, et on s'aperçoit que dans certaines localités, quelle que soit l'année, il y a un système qui est meilleur que les autres, qui est un système de SCV, mais dans les deux autres situations expérimentales, certaines années, c'est un système de SCV qui l'emporte, qui présente le meilleur rendement, et d'autres années, c'est un autre système qui présente le meilleur rendement. Ce que conclut l'article, qui normalement aurait dû être une hypothèse de départ, c'est qu'il ne faut pas promouvoir une seule technique de manière universelle dans tous les milieux, parce que cette technique, on est certain qu'elle ne va pas marcher dans toutes les situations, et on risque de dégoûter les agriculteurs de cette innovation qui pourrait, dans certains cas de figure, présenter des intérêts. Si je résume ce premier fil que je tire, ce premier fil historique, avec une approche un peu critique, dans une vision constructive évidemment, en ayant en mémoire que ce qui nous intéresse, c'est de transformer les agricultures du monde pour qu'elles satisfassent mieux les attentes des sociétés. Je dirais que le contenu technique est très détaillé, les SCV sont vraiment examinés sous toutes les coutures, mais les techniques agroécologiques sont présentées comme à portée universelle et devant s'imposer partout, ce qui, à mon avis, est une erreur. La question des bases scientifiques qui permettent l'extrapolation ou l'adaptation des techniques dans une diversité de situations n'est pas posée, ou est très peu posée. L'agriculteur se doit, selon cette acception, d'adopter les systèmes agroécologiques, et la transition n'est pas une question. Ils doivent l'adopter. S'ils ne l'adoptent pas, c'est qu'il y a une erreur dans le système. Mais dans tous les cas, ils l'adopteront. Et on ne se pose pas la question de la manière dont on fait bouger les agriculteurs dans une phase de transition. Et puis les finalités du changement de pratique finissent par s'effacer au profit de l'imitation de la nature comme principe directeur. Les SCV, c'est arrêter de travailler le sol, c'est avoir une couverture permanente, c'est une caricature d'un fonctionnement d'un écosystème naturel. Et on considère que cette caricature est suffisamment porteuse de vertu pour que, globalement, on améliore la situation. Voilà le premier fil, les SCV, issus notamment du CIRAD en France, comme représentation de ce qu'est l'agroécologie. Deuxième fil, celui de Pierre Rabhi, totalement différent, mais aussi une incarnation très forte, avec une personnalité très forte, avec une histoire de Pierre Rabhi, ici c'est une photo lorsqu'il rencontre Thomas Sankara au Burkina Faso, Pierre Rabhi qui conteste l'agriculture artificialisée dans nos systèmes, dans les pays du Sud, et qui passe de cette contestation à l'aide au développement, en particulier en Afrique subsaharienne, et puis qui ensuite passe à une éthique fondée sur le respect de la vie et la place centrale de l'agriculture. une évolution assez significative, si vous regardez les écrits de Pierre Rabhi, les actions de Pierre Rabhi, entre le début des années 80 et le milieu des années 2000-2010. Alors, cette éthique de Pierre Rabhi, elle est fondée sur un ensemble d'entités, je ne sais pas comment il faut les qualifier, qui mélangent, qui mixent des valeurs paysannes, des dimensions d'ordre technique, par exemple une biodiversité préservée, et puis un certain nombre de points de vue sur la manière dont doit être organisée l'activité agricole au sein d'une communauté, avec par exemple une économie locale dynamisée et la sobriété heureuse. L'agroécologie, pour Pierre Rabhi, c'est l'art de coopérer avec la vie. Il a beaucoup de définitions, mais il y en a une ici. C'est l'art de coopérer avec la vie. Et il faut suivre cette spirale, qui, moi, m'angoisse toujours un petit peu, parce que je ne sais pas ce qui se passe quand on arrive ici. Et finalement, cet ensemble-là de 12 principes sur lesquels repose l'agroécologie, c'est quelque chose qui est bien expliqué dans cet ouvrage, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est un ouvrage d'entretien entre Pierre Rabhi et Jacques Capla. Jacques Capla, qui est un agronome, également diplômé en sciences humaines, qui a beaucoup travaillé sur l'agriculture biologique. Donc cet ouvrage est un ouvrage de dialogue entre les deux personnalités, et on y trouve un exposé très clair de la manière dont résonne Pierre Rabhi à l'heure actuelle. L'édition de cet ouvrage, c'est relativement récent, c'est 2011. J'ai résumé ici la manière dont Pierre Rabhi, finalement, chemine au sein de cet ouvrage. Il part d'un constat que les civilisations actuelles courent à leur perte. Il a un vocabulaire qui est assez vigoureux. Hein. C'est pas forcément nuancé du point de vue de l'expression. Il existe une harmonie, une intelligence dans la nature. Il existe un ordre dans la nature. Et la Terre est un organisme vivant dont il ne faut pas contrarier les dynamiques. Il ne faut pas aller à l'encontre des équilibres et des forces complexes du monde vivant. Il fait le constat, en comparant ces deux points ici, que l'agriculture, déterminée depuis les origines par les lois intangibles du vivant, je cite, est désormais soumise à l'arbitraire d'une agronomie inféodée à l'industrie et à la pétrochimie internationale. Moi qui suis agronome, je ne suis pas complètement d'accord avec la façon dont il décrit l'agronomie, mais en tout cas, c'est une citation, c'est entre guillemets. L'agroécologie est une démarche agricole qui renoue avec le vivant, fondée sur une bonne compréhension des mécanismes, expression profonde du respect de la vie. Elle réhabilite le caractère sacré de la terre et la racine pivot d'une réalité plus vaste, avec des corollaires variés allant dans le sens de l'autonomie, de l'harmonie avec la nature, du bien-être des populations. Et elle peut servir pour toute l'humanité. En bref, il y a une sorte de vitalisme. La vie et le respect de la vie sont un élément essentiel dans la manière dont Pierre Rabhi raisonne. Il y a une sorte d'universalisme. L'agroécologie doit être présente partout. Et puis, il y a une idée d'harmonie naturelle, de monde fondamentalement bon, que l'agroécologie appelle à respecter. Pierre Rabhi a fait des émules. Vous avez d'autres ouvrages qui sont sortis sur l'agroécologie, qui finalement sont exactement dans la même lignée de pensée, même si le vocabulaire peut être un petit peu différent. Vous voyez cet ouvrage ici, avec En exergue, cultivons la vie. J'ai extrait quelques éléments. L'homme est au service de la vie. Respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales, c'est ça l'agroécologie. Et puis, on l'aura compris, l'agroécologie est beaucoup plus qu'une collection de techniques de production agricole. C'est un art de vivre, une éthique. Donc finalement, le respect de la vie très présent chez Pierre Rabhi, on le retrouve chez un certain nombre d'épigones de sa pensée. Donc je fais la même approche critique de Pierre Rabhi que ce que j'ai pu présenter sur les CV de Lucien Segui. Vous voyez déjà que c'est très différent entre ce que Lucien Segui propose, l'agroécologie c'est une technique, et ce que Pierre Rabhi propose, l'agroécologie c'est un art de vivre. L'ambition globalisante me paraît assez séduisante, on a une pensée systémique qui me paraît tout à fait fructueuse, mais le contenu technique est assez peu formalisé, par rapport notamment à ce qui pouvait être présent dans la première acception de l'agroécologie que j'ai présentée antérieurement. On ne sait pas quelles sont les déclinaisons du respect de la vie, qui est pour moi quasi mystique, qui est omniprésent. Et les gens qui défilent à Washington pour le respect de la vie ont une certaine conception de ce que c'est que le respect de la vie. Je ne sais pas si Pierre Rabhi le partage, mais en tout cas je trouve que ça pose ces questions-là. On pose aussi la question de savoir comment on passe de l'agroécologie avec l'agriculture au centre, à la société et à son développement. Et comment on suit ça si on est urbain? Plus de la moitié de la population sur la planète est urbaine. Comment est-ce qu'on fait de l'agroécologie, qui est le cœur de la civilisation, si on habite à New York ou à Calcutta? Et puis, les fondements scientifiques sont souvent passés sous silence, de fait. Alors, c'est facile pour moi de critiquer en extrayant un certain nombre de phrases, mais vous êtes obligé de me faire confiance, je ne trahis pas sa pensée. La qualité de l'alimentation est tout aussi cruciale. C'est un domaine où je pense que plus grand monde n'ose nier le bénéfice de l'agroécologie. C'est un acte de foi, ça n'est pas une démonstration. Et quand on sait la difficulté qu'il y a à prouver l'effet d'une manière de produire sur la qualité des produits, eh ben on peut comprendre qu'on substitue des actes de foi à des preuves dans ce genre de situation. Mais de fait, c'est un acte de foi, et on en a un autre ici. Notre planète Terre, qu'il appelle notre mère la Terre très souvent, recèle toutes les ressources nécessaires pour que l'humanité ne manque de rien de ce qui lui est indispensable, particulièrement sur le plan alimentaire. Pour moi, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de démonstration. Il y a une conviction, un acte de foi, mais qui mériterait d'être étayé sur le plan scientifique, en tout cas, si on a une approche scientifique, qui est plutôt la mienne. Troisième fil, et je m'arrêterai là pour les fils historiques, je ne prétends évidemment pas du tout à l'exhaustivité. Je donne de manière pointilliste quelques images de ce qu'est l'agroécologie pour différents acteurs, en particulier des acteurs qui ont pesé au cours des dernières décennies. La troisième figure, c'est lui, Miguel Altieri, scientifique, qui travaille en Californie, mais qui est d'origine chilienne, et qui est celui qui a popularisé le premier, le terme d'agroécologie, dans les décennies récentes, avec son premier ouvrage en 1983, qui a été traduit par Michel Timbert et préfacé, je crois, traduit en français par Michel Timbert et préfacé par René Dumont, si ma mémoire est bonne. C'était le premier des ouvrages, l'ouvrage fondateur, mais il en a écrit d'autres. J'en ai sélectionné quatre ici, mais il en a écrit beaucoup d'autres et beaucoup d'articles de synthèse. En 1994, la biodiversité et la gestion des ennemis de l'écosystème. On a ici juste une illustration du fait qu'à l'origine, Miguel Altieri est entomologiste, donc ses préoccupations viennent d'abord d'une volonté d'avoir une manière de protéger les cultures alternatives à l'usage des pesticides. 1995, agroécologie, la science d'une agriculture durable. 2005, gérer les insectes sur votre ferme, où on retrouve la dimension agroécologique. Ouvrage copublié avec Clara Nichols, qui est également son épouse. Donc une figure très importante de l'agroécologie sur le plan scientifique. Et puis, si je dois résumer Altieri en cinq principes, ce qui est absurde, mais bon, si on veut faire bref, il faut accepter ce genre de simplification. Les cinq principes qui sont l'accumulation de la matière organique dans les agroécosystèmes et le recyclage des éléments minéraux, privilégier l'activité biologique des sols, privilégier les mécanismes de contrôle naturel des ennemis des cultures, préserver les ressources et la régénération des ressources quand elles sont altérées, et puis globalement favoriser la diversité biologique dans les agroécosystèmes et les synergies entre les différentes composantes des agroécosystèmes. Donc ça, c'est la vision scientifique d'Altieri, qui est une vision centrée, vous le voyez bien à travers ses principes, sur le fonctionnement de l'agroécosystème. Sur le plan scientifique, puisque ce fil, vous l'aurez compris, c'est un fil scientifique sur l'agroécologie, cette vision scientifique, elle a été prolongée par différents auteurs. Il y a un article de Dalgarde en 2003 qui cherche à prouver que l'agroécologie est une science. Tout l'article est dédié à ça, démontrer que l'agroécologie est une science avec des preuves de scientificité. Si on regarde sa première définition de l'agroécologie, ce qu'il appelle la hard agroecology, c'est quelque chose qui est très similaire à ce que présentait, ce qu'on a vu dans la diapositive précédente, Miguel Altieri. C'est l'étude, l'agroécologie, du fonctionnement des agroécosystèmes dans une optique de conception de système agricole durable avec une prise en compte des interactions fortes entre les plantes, les animaux et l'environnement avec sa composante biologique. Et donc, ils mettent très fortement l'accent sur la jonction entre l'agronomie et l'écologie. Les disciplines qui sont impliquées sont ces disciplines phares, l'agronomie et l'écologie. Et Dalgarde propose une autre vision de l'agroécologie, qui est la soft agroecology, dans laquelle il englobe dans le système étudié, non plus seulement les animaux, les plantes et les composantes biologiques de l'agroécosystème, mais aussi l'humain agissant sur cet agroécosystème, et les disciplines scientifiques qui sont nécessaires pour faire de l'agroécologie deviennent, aux côtés de l'agronomie et l'écologie, des disciplines, des SHS, des sciences humaines, des sciences économiques et sociales. Donc finalement, on a un élargissement dans une deuxième acception scientifique de ce que c'est que l'agroécologie. Élargissement par rapport à la vision de départ de Miguel Altieri, qui se résumait bien dans la hard agroécologie. Et puis au-delà de ça, il y a une troisième dimension scientifique qui est apparue au début des années 2000, avec notamment cet article de Francis, Charles Francis, également américain travaillant sur la côte ouest, qui définit l'agroécologie comme l'étude intégrée de l'écologie des systèmes alimentaires. Donc on va au-delà de la simple phase de production, on fait le constat qu'il existe des liens très étroits entre l'agriculture et l'alimentation, que ces deux activités humaines sont très interdépendantes, que si on veut bouger l'agriculture, il faut bouger l'alimentation, qu'on doit s'intéresser au système alimentaire. Et il utilise cette formule qui me paraît toujours un peu absconse, d'écologie des systèmes alimentaires. Je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à présent ce qu'on peut dire d'écologie des systèmes alimentaires, mais là n'est pas le propos. Le propos est de dire qu'on a un élargissement encore supérieur, puisqu'on passe de la phase de production à une phase beaucoup plus globale d'intégration de la production, de la transformation et de la consommation dans les systèmes alimentaires. Donc sur le plan scientifique, on voit cette gradation entre un univers relativement borné au départ, qui est celui de Miguel Altieri, sur le fonctionnement de l'agroécosystème, un élargissement dans une première étape qui intègre l'homme dans sa dimension d'acteur qui joue sur les agroécosystèmes, et puis dans une étape encore suivante, une intégration dans l'autre sens, en englobant dans les systèmes alimentaires la production, la transformation et la consommation. Cette vision un peu générale de l'agroécologie, on la retrouve à différents endroits, et vous avez ici un auteur qui est assez important dans l'agroécologie, qui est Stephen Glisman, avec un ouvrage qui est paru en 2015, Agroécologie, une approche transdisciplinaire, participative et orientée action, ce qui donne le poids, la mesure de la dimension sens humaine dans cette approche scientifique de l'agroécologie. Et puis je ne peux pas passer sous silence le célèbre groupe du GIRAF, qui est un groupe de scientifiques et d'acteurs belges, dont vous avez certainement un certain nombre de représentants qui sont dans la salle, ils pourront se dénoncer après. Et donc, comme j'ai parlé d'incarnation, vous avez ici Pierre Stassard, donc le groupe GIRAF a continué à enrichir cette vision de l'agroécologie et a ajouté au principe de départ de Miguel Altieri, je ne les redis pas, figure ici, au principe méthodologique qui avait été ajouté par des collègues de l'INRA ici, un certain nombre de principes méthodologiques ou dits socio-économiques dont on pourrait discuter le contenu. Je les mentionne juste pour montrer que ces questions scientifiques sur l'agroécologie sont en perpétuelle évolution, et je reviendrai là-dessus lors de la conclusion de mon exposé. Si je prends une approche critique de ce fil, le troisième, incarné au départ par Miguel Altieri et à la fin par Pierre Stassard, le contenu scientifique est très développé, et pour cause, puisque ce sont des scientifiques faisant de l'agroécologie qui construisent cette dimension du terme, du vocable. La traduction en manière de faire, en revanche, n'est pas toujours très formalisée, comment on passe de la science à l'action. C'est bien une des problématiques cruciales de l'agroécologie. L'échelle de travail reste, au moins au départ, assez circonscrite. L'échelle de travail de Miguel Altieri, c'est la parcelle, c'est l'interaction plante-ennemi des cultures, mais pas tellement plus loin. Après, il a élargi un peu à l'exploitation agricole, et il est devenu un fervent défenseur des petites exploitations agricoles. J'ai cité tout à l'heure Charles Francis, où on passe au système alimentaire, donc il y a eu un élargissement progressif, mais au départ, au moins, les échelles de travail sont très circonscrites. Et l'agroécologie s'est très peu préoccupée au départ des enjeux globaux. C'était une science qui était très focalisée sur des enjeux locaux. Et par exemple, les enjeux du changement climatique sont des enjeux qui sont apparus très tardivement dans les discours sur l'agroécologie scientifique. Les finalités sont le plus souvent implicites et ou considérées comme automatiquement atteintes. Le lien entre la science et les finalités n'est pas toujours clair. Et puis la question des transitions et du facteur humain n'apparaît que très lentement. Je ne dis pas qu'on ne s'en préoccupe pas dans cette approche scientifique de l'agroécologie, mais en tout cas, ça n'est apparu que très très lentement et au cours de la dernière décennie. Mon premier message, il y a un certain nombre de fils historiques avec quelques touches, trois dimensions, la science, l'éthique et, j'ai commencé par ça, la pratique agricole. Alors, face à cette diversité, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui unit ces différentes acceptions de l'agroécologie? Je garde juste les figures, Pierre Stassard, Miguel Altieri, Pierre Rabhi et Lucien Segui. Ma deuxième idée que je veux faire passer, c'est que l'agroécologie correspond à des registres cognitifs et d'action qui sont certes très différents, vous avez pu le voir dans ce que j'ai présenté précédemment, mais qui présentent quand même, à un niveau que je qualifie de supérieur, une unité de dessein, une unité de finalité. Donc l'agroécologie, ce n'est pas tout et n'importe quoi quand même. On ne peut pas dire tout et son contraire à travers l'agroécologie, même si on assume cette diversité des acceptions et cette diversité des points de vue. On a dit un certain nombre de choses dans cet article-là avec des collègues il y a quelques années, en 2009. Finalement, l'agroécologie, ça peut être une science, ça peut être un mouvement, ça peut être une pratique agricole. Et tout ça, à un certain moment, se mélange, se mêle pour faire de l'agroécologie, à des degrés divers, selon les personnes qui utilisent le terme, et selon le type d'activité humaine, de la recherche, de la politique, de l'activité agricole qu'elle mène. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de mouvement et de mouvement social, j'ai plutôt parlé d'éthique avec Pierre Rabhi. Et donc je fais juste une incise pour citer cette personne-là, qui est aussi une figure de l'agroécologie, qui est Eduardo Sevilla Guzmán, qui est espagnol, et qui a développé une école d'agroécologie dans le sud de l'Espagne, qui correspond vraiment à l'engagement dans un mouvement social. Donc j'ai extrait ça d'un article du mois de décembre de Sevilla Guzmán, qui reprend des vieilles théories économiques et sociales et les analyse. Alors j'ai laissé ça en espagnol, mais si vous parlez français, en gros, l'espagnol c'est du français un peu maquillé. Hein. Donc l'agroécologie peut se définir comme la gestion écologique des ressources naturelles, jusque-là tout va bien, à travers des formes d'action sociale collective. Là, il y a un parti pris très fort en matière de politique et de mouvement social qui présente une alternative à la crise actuelle de la civilisation. Donc l'agroécologie est bien présentée comme une alternative au capitalisme. Si vous détaillez ici ce paragraphe, vous voyez tous les défauts du capitalisme et tout ce que l'agroécologie va pouvoir apporter comme solution par rapport à la situation de l'agriculture capitaliste à l'heure actuelle. Donc on a bien un certain nombre de personnes qui, au-delà de ce que j'ai présenté sur les trois premiers acteurs, sont très engagées dans une agroécologie pour un mouvement social, et on y reviendra. Donc la polysémie du terme traduit le foisonnement des idées et des initiatives. On en trouve sur le terrain, on en trouve dans les laboratoires, on en trouve dans les cabinets des ministères. Mais pour tous, l'agroécologie, c'est quand même chercher à reconcevoir l'agriculture sur des bases renouvelées. Et quelles sont ces bases? C'est mobiliser les régulations biologiques plutôt que les intrants pour accroître la production, ménager les ressources rares ou non renouvelables, combiner les savoirs traditionnels, on y reviendra, avec les savoirs scientifiques les plus pointus, adapter les solutions techniques au cas par cas, aider les acteurs, dont les agriculteurs, à trouver leurs propres solutions, et articuler les échelles de la parcelle, l'exploitation du territoire, du système alimentaire, pour chercher des solutions économiquement performantes et socialement équitables. Donc finalement, et c'est ce que j'ai mis en rouge ici, l'agroécologie, quelle que soit la diversité des acceptions, c'est tenter de relier l'agriculture, la science, le milieu naturel et un projet politique ou un projet de société. C'est ça ce dessin commun que j'évoquais pour les agroécologies. Mais attention, il faut toujours préciser de quelle science et de quel projet on parle pour ne pas se payer de mots. Sinon on aura tendance à confondre ce que Lucien Segui a comme projet, ce que Pierre Rabhi a comme projet, et ce que Stéphane Le Foll, actuel ministre de l'Agriculture en France, a comme projet pour l'agriculture, et il y a des différences. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est une dimension historique que j'ai présentée jusqu'à présent. Je m'arrête en gros à 2010. Et le constat qu'on a fait en 2010, c'est cette diversité des acceptions, mais ce dessin commun. Les choses bougent beaucoup en agroécologie. Elles bougent beaucoup, y compris depuis 2010. Et mes idées suivantes, elles vont tenter de préciser les évolutions que l'on a pu constater au cours des 7, 8, 9, 10 dernières années. Évidemment, toujours au nom de l'agroécologie. Première idée de ce point de vue-là, c'est la convergence internationale sur l'agroécologie, convergence au moins apparente, qui a tendance parfois à tourner un peu en rond, je m'expliquerai sur cette qualification, en simplifiant peut-être trop le message. Alors quand je dis que c'est une convergence internationale, c'est que beaucoup d'organismes internationaux se sont emparés du terme agroécologie. Le premier certainement, c'est cette synthèse de l'IASTD en 2009. L'IASTD étant le consortium qui cherche à faire pour l'agriculture l'équivalent de ce qui est fait pour le climat à travers le GIEC. Un gros rapport de différents acteurs qui est paru en 2009 et qui, dans un de ses éléments de conclusion, disait qu'il y a un urgent besoin de diversifier et de renforcer les systèmes de connaissances en agriculture en reconnaissant les différences dans les approches d'agroécologie et dans les conditions culturelles et sociales. Cette phrase-là a été reprise un grand nombre de fois pour prouver que, y compris au niveau international, il existait des alternatives au système dit dominant, en termes de système de connaissances, et qu'il fallait privilégier la diversité des systèmes. Ah. Je suis bloqué. Je perds tous mes effets. Et voilà. Deuxième illustration de cette dimension internationale, Olivier, alors je ne sais jamais s'il faut dire deux Schulter, deux Schulter, étant en Belgique, je ne sais pas très bien ce que dire, Schulter, ok, Olivier de Schulter, avec sa, comment on appelle ça, communication, lorsqu'il était rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, 20 décembre 2010, paru début 2011, qui parle énormément de l'agroécologie. Alors on a fait dire à Olivier de Schulter un certain nombre de choses qu'à mon avis il n'a pas dites. Je cite Pierre Rabhi. Le rapport d'Olivier de Schulter en 2011 a fait la synthèse de nombreuses études et confirme fermement que l'agroécologie est la meilleure voie pour nourrir l'humanité. Je ne sais pas si Olivier de Schulter endosse cette affirmation, mais en tout cas ce qui figure dans ce rapport, ce n'est pas exactement ça. Donc j'ai pris un certain nombre d'extraits de son rapport. En fait, son rapport se focalise sur les modes de développement. Il ne se focalise pas forcément sur les pratiques agricoles, même s'il en parle. Il se focalise sur les modes de développement. Il discute de la manière dont les États peuvent et doivent réorienter leur système agricole de manière à contribuer à la réalisation progressive du droit fondamental à une alimentation suffisante. Il parle bien ici de modes de développement agricole. Donc je ne pense pas qu'il ne parle que des pratiques. Il parle de la politique à mettre en œuvre pour favoriser un certain nombre de pratiques. Et puis, cette phrase-là me paraît importante. Le présent rapport défend l'idée que la transposition de ces expériences à une plus grande échelle est le principal défi à relever aujourd'hui. Il fait bien le constat que dans un certain nombre de cas, l'agroécologie apporte des bénéfices, mais qu'on n'a pas réglé tous les problèmes. Et qu'il y a un énorme travail à réaliser pour passer de situations de niche qui semblent favorables à une situation où l'ensemble des agricultures suivrait un certain nombre de principes de principes du type agroécologique. Donc la phrase de Pierre Rabhi, que je ne vais pas citer à nouveau, me paraît excessive par rapport au contenu réel du rapport d'Olivier de Schulter. Autre exemple d'une prise en charge de l'agroécologie par un certain nombre d'organismes internationaux, IPES Food, qui est un panel international de plus ou moins haut niveau sur l'agriculture, et sur l'alimentation, qui est un conseil scientifique qui, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, est présidé par Olivier de Schulter. IPES Food a sorti un rapport en 2016 de l'uniformité à la diversité qui fait l'apanage de l'agroécologie. J'ai mis juste là, parce que j'en aurai besoin après, la façon dont il promeut l'agriculture biologique en faisant notamment référence à l'étude de Bagley et Hall de 2007 qui montre que l'agriculture biologique a des rendements de 8% inférieurs dans les pays développés par rapport à l'agriculture conventionnelle et de 80% supérieurs dans les pays en développement. Ipes Food a un certain nombre d'illustrations extrêmement parlantes, j'aime beaucoup celle-là, pour montrer les bénéfices dans un cercle vertueux des changements de pratiques ici, qui amènent à des caractéristiques différentes du milieu, rendant un certain nombre de services écosystémiques, et ces services écosystémiques eux-mêmes rendent plus facile, facilitent les changements de pratiques, une fois qu'on a restauré un certain nombre de sols dégradés, à partir de pratiques qui donnent des caractéristiques particulières au sol, c'est plus facile de modifier les pratiques sur les exploitations agricoles qui ont commencé à rentrer dans ce cercle vertueux. Vous avez ici un commentaire par Steve Glissman, que j'ai cité tout à l'heure en présentant un de ses ouvrages, concernant le rapport de Ipes Food. J'extrais deux phrases, une qui me paraît significative du caractère un peu caricatural que prennent parfois les propos, puisqu'il dit que ce rapport d'Ipes Food décrit les étapes à franchir pour passer des systèmes simplifiés, uniformes, de monoculture et d'agriculture industrielle vers des systèmes de pratiques agricoles agroécologiques, et plutôt que les feedlots géants utilisés pour élever les animaux et les monocultures de production végétale, il faut passer à des systèmes plus diversifiés. Je trouve ça caricatural, parce que si vous parcourez, peut-être la Belgique que je connais mal, mais la France en tout cas, et le monde en général, on n'est pas partout dans des systèmes de monoculture, on n'est pas partout dans des systèmes de feedlot américains, et il demeure une diversité qu'il faut préserver, et qu'il faut aussi valoriser telle qu'elle est à l'heure actuelle. Et puis, cette phrase-là me paraît importante aussi, il dit que le rapport montre que les systèmes basés sur l'agroécologie gardent le carbone dans les sols, supportent la biodiversité, reconstruisent la fertilité et soutiennent les rendements au cours du temps, ce qui permet de mieux satisfaire les besoins des foyers. Alors ce qui m'intéresse, c'est que finalement c'est un scientifique ici qui commente un rapport d'ordre politique qui lui-même se fonde sur un certain nombre de références scientifiques. Et on commence une circularité entre les scientifiques et les politiques qui se citent mutuellement sans forcément que le fond de ce qui est dit par les uns et par les autres soit complètement respecté. On l'a vu tout à l'heure dans la citation que j'ai faite de Pierre Rabhi par rapport à ce que disait Olivier de Scutter, et on va en avoir d'autres illustrations. On a finalement un engouement pour le terme, mais à chaque fois qu'on passe une étape supplémentaire, on a un affadissement par rapport à ce que les uns et les autres ont pu dire précédemment. Et on a une administration de la preuve qui est de plus en plus fragile, de mon point de vue, puisque le discours s'affadit, ses bases sont de plus en plus faibles, et finalement, quel crédit il faut accorder à ce que dit Steve Glissman quand il parle d'un rapport politique qui lui-même a parlé, a s'appuyé avant sur ce qu'a dit Steve Glissman lui-même. Donc on a cette sorte de circularité dont, à mon avis, à un moment, il faut sortir pour retourner aux résultats réels qui sont fournis par les systèmes agroécologiques. Autre organisme international, la FAO. Alors, ici, vous avez une citation de Miguel Altieri qui encense le rapport d'Olivier de Scutter. Autre exemple de cette circularité, Olivier de Scutter s'appuie sur les scientifiques et Miguel Altieri s'appuie sur Olivier de Scutter et tout le monde est très content, l'agroécologie c'est génial. Donc la FAO, ici, septembre 2014, organise un séminaire sur l'agroécologie. Deux scientifiques, Steve Glissman et Pablo Titonel, qui est actuellement à la tête d'un département de l'INTA en Argentine, font un commentaire et disent que le symposium de la FAO a démontré que, en gros, on a tout ce qu'il faut à travers l'agroécologie, et que la seule chose, pardon, qu'il manque, c'est de l'action, de la vision et de la responsabilité, et surtout du courage. Donc on entérine, au niveau ici de scientifiques, qu'en fait, tout est à disposition et qu'il suffit juste d'avoir le courage politique pour pouvoir résoudre tous les problèmes, ce qui, de mon point de vue, est discutable, comme je l'illustrerai tout à l'heure. Alors la FAO a organisé effectivement ce symposium en 2014, avec beaucoup de partenaires, pas seulement des scientifiques, mais aussi des acteurs des systèmes alimentaires. Alors, pourquoi est-ce que je critique un peu ça? Parce que je ne vais pas avoir beaucoup de références scientifiques, mais je présente quand même un graphique qui est celui-là. Olivier de Scutter s'est appuyé de manière très forte sur un article de Jules Préti et, pardon, Erl, que je présente ici. Jules Préti a fait une synthèse de situations, en particulier dans les pays africains, dans lesquels on a comparé des systèmes conventionnels à des systèmes agroécologiques. Ce que vous voyez ici, c'est le rapport entre le rendement dans les systèmes agroécologiques et le rendement dans les systèmes conventionnels. Et chaque point ici correspond à une situation, et on a les différentes cultures qui sont représentées ici. C'est formidable, puisque le rapport est toujours supérieur à 1. Ça prouve que l'agroécologie, ça marche. En fait, si vous allez voir la référence de Préti, ce que personne ne fait jamais, vous avez les explications. C'est-à-dire que Préti, il ne prétend pas qu'il est représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Il dit clairement, nous avons sélectionné les projets qui marchaient pour essayer de voir jusqu'où pouvait aller l'agroécologie. Et pour voir dans quelles conditions technologiques, institutionnelles et de soutien ces projets pouvaient marcher. Donc on fait dire à Jules Préti, qui lui est totalement de bonne foi, que les systèmes agroécologiques marchent toujours, alors qu'en fait, ça marche dans un certain nombre de situations, mais il est aussi utile pour l'humanité d'identifier les situations dans lesquelles ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas, que les situations dans lesquelles ça marche. Donc je ferme cette parenthèse-là, mais ça me paraît essentiel d'être sensibilisé au fait que dans cette circularité entre le politique et le scientifique que j'évoquais, on finit par perdre l'essence de la démonstration qui figure dans un certain nombre de cas de figure. Et s'il y a des étudiants parmi vous, vous avez toujours intérêt à retourner aux références Princeps pour voir ce que les gens ont dit réellement et non pas ce qu'on leur fait dire. Autre exemple ici, je vous ai cité tout à l'heure dans le rapport High-Paced Food, la comparaison des rendements en biologique et en conventionnel, le rapport de Bagley et Hall, vous retrouvez les chiffres de tout à l'heure, moins 8% dans les pays développés et plus 80% dans les pays en développement. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule analyse, méta-analyse de l'agriculture biologique versus le conventionnel. Il y en a eu plusieurs ces dernières années. Il y en a une autre, celle de Seufert et Hall, parue en 2013, qui donne 60% dans les pays en développement en termes de perte de rendement, et non pas plus 80%. C'est compréhensible, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, on comprend très bien pourquoi il y a les différences entre les deux études. En revanche, n'en citer qu'une, et à la limite de l'honnêteté, c'est ce que les Anglais appellent le cherry picking, c'est-à-dire on va chercher la référence qui correspond à l'idée qu'on se faisait au départ du résultat qu'on veut obtenir. Donc non seulement il faut aller regarder les références Princeps, mais si possible, il faut regarder la diversité des références qui existent. Je ferme la parenthèse pédagogique. La FAO continue à avancer sur l'agroécologie, 1er décembre 2016, sortie de ce site qui est un site normalement interactif, de manière à ce que les différents acteurs puissent mettre sur le site leurs références sur l'agroécologie qui seront utilisables à terme par d'autres acteurs. L'Europe n'est pas en reste. Dans H2020, dans l'activité 2.1, agriculture durable et foresterie, vous avez un certain nombre de tendances de l'agriculture qui sont promues, parmi lesquelles j'ai juste identifié ici l'agroécologie. Et puis, exposition de Milan 2015, avec un gros focus qui avait été mis sur l'agroécologie. Tout ça traduit que finalement, l'agroécologie s'est emparée de l'international, ou l'international s'est emparé de l'agroécologie, avec cette convergence apparente et cette circularité et cet affadissement du discours que j'évoquais jusqu'à présent. Et puis, je ne peux pas terminer cette idée-là sans citer Agroécologie Europe, cette association dans laquelle vous retrouvez un certain nombre de personnes belges et qui a été fondée il y a un peu plus d'un an, ici en Belgique, pour essayer de promouvoir la défense de l'agroécologie au niveau des acteurs internationaux. Et je le mets bien dans ce chapitre-là, parce que ça traduit le fait qu'au-delà des instances internationales, les acteurs au niveau international cherchent aussi à s'emparer de l'agroécologie et à faire entendre une autre voix que les voix uniquement des politiques. Idée 4, une implication plus forte du et vers le politique depuis les 10 dernières années. Implication qui reste extrêmement hétérogène, voire conflictuelle. Je l'illustre juste à partir de deux pays. Le Brésil, donc si vous lisez l'espagnol, vous lisez le portugais, c'est à peu près pareil. Hein, ça ressemble à du français et un peu différent. C'est ici le plan national pour l'agroécologie et l'agriculture biologique, qui est développé par une commission interministérielle de l'agroécologie et de l'agriculture biologique, et qui mêle tout un paquet de ministères brésiliens. Et ce qui me paraît important, c'est que vous avez deux ministères en charge de l'agriculture au Brésil. Vous avez le ministère de la pêche et de l'agriculture, et puis vous avez le ministère de l'agriculture et du développement agricole. L'un est fait pour l'agriculture exportatrice, la production de soja en particulier, et l'autre est fait pour les paysans sans terre, la réinstallation des agriculteurs et l'agroécologie. Donc vous avez cette dualité qui est apparue au moment du changement de gouvernement au milieu des années 2000. Mais l'agroécologie est vraiment prise au niveau politique de manière à favoriser très précisément la réinstallation des paysans. Et vous avez des analyses qui ont été réalisées dès le début des années 2000 sur les liens qui pouvaient exister entre des associations comme la Via Campesina et puis le développement de l'agroécologie au niveau ministériel. On commence à avoir assez de recul pour voir comment ça marche. Vous avez un article qui est sorti il n'y a même pas un mois qui analyse la façon dont a pu ou n'a pas pu se développer le plan agroécologique au Brésil en mettant en évidence la contradiction qui existe entre quelque chose qui était fondamentalement local et porté par les acteurs dans les territoires et un plan national au niveau fédéral, avec la difficulté de concilier cette volonté fédérale et ses actions sur le terrain. Donc, je ne rentre pas dans les détails de l'article, mais on commence à avoir suffisamment de recul pour voir comment le politique peut s'investir, au-delà du projet politique, à travers les différents outils dont il dispose, notamment l'outil réglementaire. Ça, c'était le Brésil. Après, il y a la France, autre pays qui a fait de l'agroécologie quelque chose d'important. Si ça marche, vous allez entendre Stéphane Le Foll.
On a annoncé une journée, Produisons autrement, qui a vu tout un tas d'expériences, de terrain. Ce qu'on a souhaité, c'était de donner la parole à des agriculteurs, puis en même temps d'avoir derrière les concepts qui sont portés par les chercheurs. C'est ce lien entre ce qui peut être conceptualisé pour pouvoir être diffusé par rapport à ce qu'a été des expériences d'agriculteurs qui nous ont dit d'ailleurs toute la matinée, pour la plupart, étaient assez isolés dans leur première démarche. Et donc je trouve que cette journée, qui était là pour essayer de recenser ce qui existait, atteint parfaitement son but. C'est une première étape, cette journée de Produisons autrement sur l'enjeu de l'agroécologie. Il s'agissait de faire un bilan, d'essayer de voir tout ce qui se passait, d'essayer de mesurer ce dont on pouvait tenir compte pour la suite. Et donc, par rapport à l'objectif, pour l'instant, mais je le sais, jusqu'à la fin de la journée, on aura atteint notre objectif. C'est la première.
Voilà, donc vous avez entendu Stéphane Le Foll, il est content de lui. C'est le 18 décembre 2012, Philippe Barret était présent en tant que grand témoin. Et c'est ce jour-là que Stéphane Le Foll a basculé vers le terme agroécologie. Il parlait depuis 6 mois de « Produisons autrement », qui était son slogan. Et il a basculé vers l'agroécologie. Je ne sais pas très bien d'où lui est venu le terme, sûrement d'un de ses copains agriculteurs qui travaillait sur les SCV d'ailleurs. Et du coup, toute la France a basculé vers une discussion sur ce qu'est l'agroécologie. Je n'ai pas dit que toute la France avait basculé dans l'agroécologie, mais toute la France a basculé sur cette discussion sur ce que c'est que l'agroécologie. sachant qu'à l'époque, le ministère de l'Agriculture ne savait absolument rien de l'agroécologie. Je me souviens de coups de fil baroque avec des fonctionnaires du ministère qui appelaient pour savoir pourquoi le ministre avait dit agroécologie et qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Mais ce jour-là, et Philippe Barrel avait bien souligné dans son intervention, le ministre a mis la barre haut et un certain nombre de pays ont commencé à regarder ce qui pouvait se passer en France en termes d'agroécologie et le ministre a créé une attente vis-à-vis de l'agroécologie. Alors l'agroécologie, Stéphane Le Foll, c'est pas la même que celle de Lula. Et donc il n'y a pas en France de paysans sans terre, il n'y a pas le même besoin d'opposition à l'exportation, à la sojaïsation et à la déforestation. Donc d'autres formes ont caractérisé cette vision politique de l'agroécologie par un ministre socialiste. J'ai pris ici des diapositives qui sont des diapositives officielles, ce n'est pas les miennes, ça vient des diapositives qui viennent du ministère. Bon, les enjeux de l'agroécologie pour le ministère en charge de l'agriculture et de la forêt, c'est améliorer les résultats économiques, préserver les ressources naturelles, diversifier les successions, renforcer l'autonomie des systèmes de production, développer l'action collective. Bref, c'est un peu un gloubi-boulga, parce que pour moi, là-dedans, il y a des objectifs et puis il y a des moyens. Mais bon, ça traduit une ambition pour le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas de lutter contre le capitalisme et de réinstaller des paysans sans terre sur le terrain. Il y a trois volets dans le plan agroécologique pour la France. Connaître et capitaliser. Comment faire pour engranger tout ce que les agriculteurs savent déjà en agroécologie et pour le renforcer avec de la recherche. Diffuser et former tout le volet formation et enseignement du plan agroécologique. Et inciter, c'est le levier législatif et financier. Comment aider les agriculteurs à développer des systèmes agroécologiques. Donc c'est notamment le produire autrement et l'agroécologie pour Stéphane Le Foll, les GI2E, les groupements d'intérêt écologique et économique, forme collective d'organisation des agriculteurs qui transforment leurs pratiques et qui sont aidés financièrement, Ecophyto 2 pour réduire l'usage des phytos, développer le biocontrôle, et puis un certain nombre de plans qui touchent soit à des changements techniques, comme le développement de la méthanisation ou l'apiculture durable, soit à des changements d'organisation avec le plan enseigner à produire autrement, qui s'est traduit par un certain nombre de modifications concrètes dans les référentiels ou dans les tâches des enseignants. On a fait beaucoup de battages autour de l'agroécologie. Stéphane Le Foll a tenu bon pendant les 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, qu'il a développé. Alors on a eu de la publicité dans tous les sens, ou de la communication, pardon, dans tous les sens. Donc ici, invitation au premier anniversaire de l'an 1 de l'agroécologie. Invitation pour le cap des 100 GI2E. On a même eu droit à la nuit de l'agroécologie. On se demande quand on dort avec tous ces trucs-là, et quand on travaille. Et puis, il y a même eu, de manière tout à fait officielle, des financements qui ont été obtenus pour regarder comment, effectivement, l'agroécologie avait été mise en place. Donc, état des lieux de la mobilisation des programmes de développement rural régional en faveur de la politique agroécologique. Un marché qui a été lancé pour que des bureaux d'études analysent la façon dont les programmes régionaux, effectivement, étaient passés à l'agroécologie. Et même chose pour les filières agricoles en faveur de la transition agroécologique. Pardon. Et puis le ministère a financé la mise en place d'outils qui permettent aux exploitations agricoles d'identifier où elles en sont dans une trajectoire agroécologique. Très récemment, 23 novembre 2016, le CESE, comité... Le Conseil économique, social et environnemental, la troisième chambre en France, à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, a émis un avis sur la transition agroécologique. Donc bref, tout le monde s'est emparé de l'agroécologie. Mais il n'y a pas toujours eu consensus. Vous avez ici le témoignage d'une partie de l'opposition à l'agroécologie de Stéphane Le Foll, avec ce manifeste qui est sorti un peu plus d'un an après le 18 décembre 2012, avec un collectif pour une agroécologie paysanne, donc on la qualifie, pour la distinguer de l'agroécologie Stéphane Le Foll, cette agriculture paysanne, elle s'oppose à l'agroécologie de Stéphane Le Foll, dont elle pense que c'est une forme dévoyée de l'agroécologie, qui elle a une visée politique très forte, qui est de favoriser les petites exploitations agricoles et la transformation de l'agriculture en France, avec le développement de nouvelles formes techniques, mais aussi organisationnelles, dans l'agriculture en France. Les associations qui sont derrière ce collectif figurent ici, et pour eux, L'agroécologie paysanne est avant tout un outil de transformation sociale. On retrouve la vision brésilienne de l'agroécologie. Et d'ailleurs, la Via Campesina est citée à cet endroit-là. Donc, sur sa gauche, dans une certaine mesure, excusez-moi, en France, il y a des élections en ce moment, donc le clivage gauche-droite commence à prendre de l'importance. Sur sa gauche, Stéphane Le Foll est très contesté par ceux qui sont les tenants d'une agroécologie paysanne. Et puis, vous avez ici l'illustration de manière condensée dans une formule, toujours le sens de la formule de Pierre Rabhi. Je suis conscient que ceux qui ont asservi l'agriculture française à leur profit, merci pour eux, vont essayer de dévoyer la notion d'agroécologie pour en supprimer tout ce qui les met en danger, c'est-à-dire tout ce qui en fait le sens. Mais il n'y a pas que cette contestation, il y en a une autre. Hein.
C'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, et ce ne sont pas des cantonniers, je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs.
Ah, pardon. C'est ça, on veut faire de l'humour et après on est perdu. Donc voilà, non seulement il y a une contestation sur la gauche, mais il y a aussi une contestation sur la droite. On verra ce que ça donnera dans quelques mois. On ne peut pas m'accuser de faire de politique puisque ce candidat-là, à la présidentielle, n'en est plus. Donc, quatrième idée, c'était finalement, depuis 5 ou 6 ans, une insertion très forte du politique dans l'agroécologie ou de l'agroécologie dans le politique, mais qui est tout sauf unanime, avec des déclinaisons extrêmement variées de cette insertion du politique dans l'agroécologie. Cinquième idée, une universalisation du concept d'agroécologie, peut-être une rigidification ces dernières années, voire un appauvrissement, et puis une utilisation de plus en plus large du vocable. Le succès du vocable fait qu'il peut être mis maintenant à des sources extrêmement variées, et parfois un peu surprenantes et ésotériques. Déjà, quelques éléments sur l'universalisation, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'agroécologie, au départ, c'était essentiellement les productions végétales. Il y a une demi-douzaine d'années, les collègues zootechniciens se sont dit « mais nous aussi ». Et donc vous avez maintenant un certain nombre de principes agroécologiques qui concernent la production animale. Je ne critique pas, c'était tout à fait nécessaire. Mais c'est pour montrer l'élargissement par rapport aux bases initiales. Maintenant, on parle aussi d'agroécologie forestière, ce qui, pour moi, est déjà un peu plus compliqué quand on voit la racine latine du terme. Mais voilà, c'est cet élargissement. Rigidification, j'ai utilisé ce terme-là. On voit apparaître quelques systèmes stars de l'agroécologie. Par exemple, l'agroforesterie. Vous avez un site qui vient d'ouvrir en 2016, qui s'appelle Ecosystem, qui porte sur l'enseignement des pratiques en agroécologie. Et là-dedans, il y a deux pratiques en agroécologie. Il y a les SCV, qu'on voit ressortir de manière très régulière, et il y a l'agroforesterie. Je trouve que c'est un appauvrissement par rapport à la richesse des transformations des agricultures qui peuvent se nicher derrière le terme d'agroécologie. Surtout si on considère le potentiel réel de l'agroforesterie en France. Hein. Pour le moment, il y a 150 000 à 200 000 hectares d'agroforesterie traditionnelle. On pense qu'il peut y avoir jusqu'à 6 millions d'hectares sur les 30 millions d'hectares de la surface française qui peuvent techniquement faire l'objet de plantations intraparcellaires, donc d'agroforesterie. Et puis en 2014, l'agroforesterie nouvelle, c'est-à-dire pas l'agroforesterie traditionnelle, fait 3 000 hectares dans le réseau associatif chez 400 agriculteurs. Et donc on est très 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 loin d'un développement significatif de l'agroforesterie. Et quand on fait des estimations sur les bases des accroissements actuels, les surfaces en 2030 s'établiraient entre 20 000 et 90 000 hectares. Donc ce sont des systèmes qui sont tout à fait intéressants, y compris sur le plan heuristique. Mais si on veut transformer radicalement l'agriculture française en 10 ans, enfin en tout cas significativement, on ne peut pas penser que ça sera uniquement à travers l'agroforesterie. Il faut être clair. Donc il y a des systèmes qui finalement prennent de la place et rigidifient et appauvrissent le concept par rapport à la diversité de ce qu'on peut avoir. Je passe sur cette diapo parce que sinon je vais me faire gronder par le doyen qui a trouvé que je suis un peu long compte tenu de ce que j'ai à dire après. On peut aussi discuter de la relation entre l'agriculture biologique et l'agroécologie. Je n'ai pas le temps de le faire dans le détail. Stéphane Bellon a fait un très bon papier là-dessus l'année dernière. Il y a une sorte de conflit qui peut exister dans le monde scientifique international entre les tenants de l'agroécologie et les tenants de l'agriculture biologique. Finalement, il y a beaucoup de choses similaires dans les deux, agriculture biologique et agroécologique. Mais il y a quand même un certain nombre de différences que j'ai soulignées ici sur les concepts clés. Par exemple, le concept de souveraineté alimentaire ou d'agroécosystème, c'est des choses qui apparaissent beaucoup plus fortement dans l'agroécologie que dans l'agriculture biologique. Le rapport à la diversité biologique est différent. Pardon, et la façon dont lier la production, la transformation et la consommation est différente dans les deux types de systèmes. Je passe là-dessus aussi. Hop. Alors quand je disais que l'agroécologie est mise un peu à toutes les sauces, j'en prends trois illustrations très rapides. Vous avez ce document-là qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui montre tous les bienfaits de l'agroécologie, et on y trouve un chapitre sur les femmes et l'agroécologie. Donc l'agroécologie devient un instrument dans la politique du genre. Ça ne me choque pas en soi, mais on a tendance à avoir le terme d'agroécologie pour la convergence des luttes, et l'agroécologie va finir par servir à tout. Et on va réussir à trouver toujours un petit lien entre les pratiques agricoles et puis un certain nombre d'autres luttes sociales. Autre exemple ici, un article qui est paru l'année dernière sur l'agroécologie et l'alimentation dans les familles atteintes par le virus du sida. Pourquoi pas ? Mais dans cette étude-là, on dit que c'est des systèmes agroécologiques et des familles atteintes du virus du sida. Il n'y a pas de témoin ni de situation avec des pratiques non agroécologiques, ni de témoin de situation avec des familles non atteintes par le virus du sida. Et donc, en termes de démonstration du bienfait de l'agroécologie pour la lutte contre le sida, moi, je suis un peu dubitatif quand même. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à trop élargir le champ qu'on veut faire couvrir à l'agroécologie, ce qui lui fait perdre de sa puissance. Troisième exemple, un article sur la justice cognitive et l'agroécologie des savoirs. Donc en gros, l'idée est que les paysans en Europe sont dominés par les grands groupes industriels, qu'on ne donne pas suffisamment d'importance à leurs connaissances et qu'il faut développer une agroécologie des savoirs de manière à revaloriser les paysans et à leur donner plus de poids dans leur rapport avec les autres acteurs. Donc on étend encore le champ de l'agroécologie à l'agroécologie des savoirs. Je termine avec la dernière idée, j'espère que je ne vais pas être trop long, qui finalement remet du positif par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que ce que je viens de dire pourrait être compris par vous de manière négative. Finalement, tout le monde parle de l'agroécologie, mais on ne sait pas de quoi on parle, et ça sert à tout, sauf peut-être maintenant à transformer les agricultures. Mais non. Heureusement, il y a une lumière, il y a un espoir. Dans cette dernière idée, c'est que finalement, il y a un cœur scientifique qui est évolutif, et ça sera l'objet de mes interventions ultérieures en février et mars. Il y a un cœur scientifique qui fait un relatif consensus et qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'il y a de vrais mouvements en recherche et en formation à l'heure actuelle autour de l'agroécologie. Et heureusement, parce que j'ai critiqué tout à l'heure ce que l'on faisait dire à la publication qui figure dans le rapport d'Olivier de Scutter, parce que pour moi, il reste du travail. Et il reste du travail scientifique pour notamment passer des situations à succès, des success stories, à quelque chose de beaucoup plus large en termes de transformation des systèmes. Ça passe par une nouvelle représentation des systèmes, des agroécosystèmes. Ça, c'est ce que moi j'ai appris quand j'étais étudiant, climat sol plante. Ça, c'est ce sur quoi on travaille à l'heure actuelle, climat sol plante, mais dans un environnement biologique qui est extrêmement complexe et qui n'est pas limité à un espace clos de la parcelle agricole comme c'est ici, mais un espace territorial plus vaste qui inclut des zones non cultivées comme les haies, les bordures de champs, etc. Donc il y a un vrai travail qui est réalisé, notamment sur cette dimension biotechnique, avec une nouvelle vision de cette représentation de l'agroécosystème. Finalement, les quatre grandes tendances en matière de recherche, je les qualifierais de la manière suivante. Une meilleure prise en compte des composantes biologiques des agroécosystèmes. Ça a été le parent pauvre de l'agronomie pendant des décennies. Ça ne fait qu'une dizaine d'années qu'on prête de l'attention à la composante biologique non cultivée des agroécosystèmes. Et il y a vraiment un énorme travail à faire en la matière. Des nécessaires changements d'échelle. Qu'on arrête de penser parcelle, il faut qu'on passe à des échelles territoriales, mais aussi à des échelles globales. Une meilleure valorisation des connaissances locales, le savoir est partagé, mais c'est difficile de concilier des savoirs de nature différentes, et il y a tout un travail de recherche à mener en la matière. Et il faut un renouvellement des chemins de connaissances, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rester uniquement sur l'expérimentation en station expérimentale ou en ferme de démonstration. Il faut passer à des modes de production de connaissances, des chemins de connaissances tels que je les qualifie là, qui sont beaucoup plus divers. Alors j'illustre très rapidement la question des nouveaux processus écologiques. Vous avez ici les résultats d'une expérimentation qui compare les infestations en piétin, une maladie du blé, pour quatre traitements expérimentaux, un contrôle, une situation où on a mis des lombriques sans piétin, une situation où on a mis à la fois du piétin sans lombrique, et une situation où on a mis à la fois lombrique et piétin. Donc du lombrique dans le sol, le piétin, un champignon de la base de la tige du blé, et on s'aperçoit que, quel que soit le critère de développement de la maladie qu'on prend, lorsqu'on ajoute du lombrique dans le sol, on a une diminution de l'incidence de la maladie par des processus écologiques que je ne détaille pas. Donc on peut utiliser ce genre de régulation biologique à effet partiel. Encore faut-il être capable de développer les lombriques. Dans cette expérimentation-là, ils ont été ajoutés dans le pot. Mais on sait aussi quels sont les systèmes qui favorisent les lombriques. Vous avez ici l'évolution des populations de lombriques au cours du temps dans une expérimentation de long terme où on compare un système conventionnel, un système biologique et un système de SCV. Les premières années, il ne se passe pas grand-chose. Pas beaucoup de différence entre les systèmes. Et puis 7-8 ans plus tard, on a des contrastes plus importants entre les systèmes. On le retrouve ici sur une autre variable qui est plus démonstrative. Au lieu d'avoir l'abondance des lombriques, ici on a la biomasse de lombriques. Et on s'aperçoit que le système SCV explose ici, au bout d'un certain temps, donc favorise la présence des lombriques dans le sol. Donc à partir du moment où on a le levier dans les systèmes de culture sur lesquels agir, on est bien plus à l'aise pour mobiliser ce type de régulation biologique. La difficulté, c'est que les régulations biologiques, ça ne marche pas bien. En tout cas, ça ne marche pas de manière définitive et universelle. Vous en avez ici un exemple. Ici, une thèse d'une étudiante qui travaillait sur des carpocaps, des prédateurs de carpocaps. Vous avez ici deux prédateurs de carpocaps dont on suit l'évolution au cours du temps pendant une saison culturelle. Pour trois modalités qui correspondent à trois modalités de gestion des bandes enherbées à côté des vergers. Pour celui-là, cette espèce de perce-oreille, pas de différence entre les modes de gestion des bandes enherbées. Pour celui-là, autre perce-oreille, super, là, au mois de juillet, où il y en a le plus, il y a un mode de gestion des bandes enherbées qui favorise les perce-oreilles, prédateurs du carpocaps. Le problème, c'est quand on regarde le taux de prédation ici, on s'aperçoit que le taux de prédation est plus faible quand il y a davantage de prédateurs que quand il y en a moins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a plus de prédateurs, mais il y a aussi plus de carpocaps, et in fine, la méthode qui favorise le prédateur favorise aussi le parasite. Donc je ne dis pas que ça ne marche jamais, je dis juste que ça ne marche pas toujours et que c'est très complexe à manipuler. Et j'aurai l'occasion d'y revenir 21 et 22 février. Changement d'échelle. Un point que j'aime beaucoup et qu'on laisse souvent de côté, c'est la question du phosphore. Vous avez ici les évolutions de la consommation d'engrais phosphatés dans les pays développés et dans les pays en développement. Il y a un vrai problème d'alimentation des pays en développement en phosphore. Et si on regarde ce qui se passe dans un certain nombre de pays du monde, finalement, le phosphore qui est utilisé, qui entre dans les pays, il rentre par l'aliment, il ne rentre pas par l'engrais. Plus la couleur est foncée, plus est importante la part de phosphore qui rentre dans le pays par l'alimentation par rapport aux engrais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le phosphore, il est déjà là dans les aliments, et que du coup, la question de la gestion des déchets à l'intérieur des pays, une fois qu'on a rentré le phosphore, ressource rare et en diminution constante, est quelque chose d'absolument déterminant. Et ça, cette dimension globale, cette façon de lier des boucles locales sur le recyclage du phosphore dans des territoires par rapport à des boucles plus globales sur le commerce du phosphore, c'est quelque chose qu'il faut absolument injecter à l'heure actuelle dans les raisonnements agroécologiques. Et puis renforcer de nouvelles démarches pour innover. Les deux derniers items que j'avais mentionnés après les régulations biologiques et le changement d'échelle, bon, c'est quelque chose qui est relativement classique pour les agronomes, mais qui est renforcé dans le domaine de l'agroécologie. On a une diversité d'agriculture, des situations agricoles contrastées, des visions du futur et des acteurs de terrain qui sont très différentes d'une région à l'autre. Et donc, il n'est pas possible ni souhaitable de chercher à concevoir des innovations consensuelles ou des systèmes de production idéaux, ça n'existe pas. Il vaut mieux préparer une diversité de solutions pour laisser le choix aux acteurs et pour les aider à faire face à des avenirs qui sont divers. Et puis surtout, il faut doter les acteurs de terrains, d'outils et de méthodes qui leur permettent d'innover par eux-mêmes et d'adapter à leur situation les innovations exogènes qui sont les plus pertinentes. Mine de rien, ça, c'est un renouvellement des chemins de connaissance qui est fondamental par rapport au mainstream du développement agricole et de la relation entre la recherche et le développement. Et en termes de formation des futurs agriculteurs, c'est aussi quelque chose qui a un impact terrible. Si vous n'apprenez pas aux agriculteurs à faire des diagnostics sur leur exploitation agricole, ben vous ne les mettez pas dans une situation d'être capable de faire face à une évolution du contexte. Donc j'ai pas le temps de développer les méthodes de co-conception qui existent dans le cadre de l'agroécologie, qui commencent maintenant à être très formalisées, qui sont des méthodes de co-conception entre les scientifiques, les acteurs du développement et les agriculteurs. Ça donne ce type de choses, ici c'est une photo d'un paperboard, où les agriculteurs, les conseillers agricoles et les scientifiques ont co-construit concomitamment, ensemble, par leurs interactions, des systèmes alternatifs aux systèmes existants. Avec un partage de savoir qui est un ensemble de savoirs qui viennent du terrain et un ensemble de savoirs qui viennent des scientifiques. Ça se décline pas qu'à l'échelle de la parcelle, ça se décline aussi à l'échelle du territoire. Mes collègues Michel Duru et d'autres ont formalisé ça de manière assez élégante dans un papier en 2015. Comment passer de la situation actuelle à des situations futures en passant par un certain nombre de chemins d'innovation renforcé par une gouvernance adéquate. À chacune de ces étapes, il existe des interactions entre les agriculteurs et les non-agriculteurs, qui sont à la fois des gestionnaires des ressources naturelles, d'autres agriculteurs sur le territoire et des acteurs des filières. Donc cette question de la co-conception existe non seulement à l'échelle individuelle de la parcelle ou de l'exploitation agricole, mais aussi à l'échelle du territoire. Et il existe maintenant des méthodes qui se formalisent, qui permettent de favoriser cette co-conception. La recherche évolue. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vous ai mis ici ce qu'était l'agroécologie en 2010 pour l'INRA, organisme de recherche agronomique de référence en France. L'agroécologie est rentrée dans la programmation de l'INRA en 2010. Et ce qui était mis en avant à l'époque, c'était l'interaction entre l'agronomie et l'écologie. Et vous avez maintenant, en bas, la révision du schéma stratégique de l'INRA l'année dernière, en 2016. Il y a toujours l'agronomie et l'écologie. Vous voyez, le pavé est plus gros qu'ici. Il y a toujours l'agronomie et l'écologie, mais on y voit apparaître les démarches de co-conception de systèmes agroécologiques et les méthodes d'études et d'accompagnement des processus de la transition agroécologique. Donc les organismes de recherche eux-mêmes évoluent dans leur conception de ce que c'est que l'agroécologie, en faisant passer d'une vision relativement circonscrite pour ce qui concerne l'INRA à quelque chose qui maintenant est beaucoup plus large. Et puis ça fait l'objet de réflexions, y compris parmi vous, là, avec cet article sur la transformation des systèmes alimentaires dans le cadre de l'agroécologie. Et puis j'ai pas le temps de parler de la formation, mais il y a un certain nombre de transformations, y compris sur les actions de formation, des choses qui existent, qui sont en parallèle de la recherche, en interaction forte avec la recherche. je vous ai mis ici quelques exemples, des actions de formation, y compris en Belgique, qui sont menées autour de l'agroécologie. Pour conclure, alors, j'ai parlé d'une constellation au début, il y a des myriades d'acceptions différentes de l'agroécologie. Elles diffèrent finalement par quelques grandes catégories. L'objet, est-ce qu'on parle des systèmes techniques, plus ou moins emboîtés, voire la figure de Dalgardéan, plus largement des écosystèmes et des systèmes alimentaires. Selon les personnes, on va parler de l'un ou l'autre. Et puis évidemment, il y a toute la gradation entre les deux. Les acceptions de l'agroécologie diffèrent aussi par l'enjeu du changement. Est-ce qu'on cherche à changer les pratiques ? Voir ce que faisait Lucien Segui. Est-ce qu'on cherche à changer les systèmes ? C'est beaucoup plus ambitieux. Ou finalement, est-ce qu'on touche aux valeurs ? Et quand Pierre Rabhi prend la parole sur l'agroécologie, il touche évidemment aux valeurs, et pas seulement aux systèmes ou aux pratiques. Troisième motif de différence entre les acceptions, les projets politiques, et dans les projets politiques, la manière de combiner ou hiérarchiser les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Entre l'agroécologie de Nicolas Sarkozy, celle de Stéphane Le Foll et celle des organisations paysannes en France, pour rester dans un pays, il y a évidemment des acceptions qui sont assez différentes. Et puis enfin, les acceptions de l'agroécologie diffèrent par la part faite à la science par rapport à l'expertise des agriculteurs et, toujours dans l'alimentation de la recherche, par la conviction versus la démonstration. On a vu des choses assez différentes selon les personnes qui parlent de l'agroécologie. Donc, il y a cette constellation, mais on arrive à faire quelques grandes cases dans l'agroécologie quand même, en distinguant les acceptions à partir de ces différentes variables. Et puis il y a des choses qui sont communes. L'agroécologie, c'est une ouverture vers de nouveaux savoirs et de nouvelles démarches, en particulier des démarches systémiques. C'est reconnaître une diversité de projets, de situations, et du coup une diversité de réponses adaptées, et puis un besoin de connaissances important. On ne sait pas tout, contrairement à ce qui peut être dit quand on dit qu'il n'y a besoin que d'action politique et de courage politique. Du point de vue de la recherche, le chercheur doit interagir fortement avec la société, avec la réalité agricole. Il y a toute une question de cette organisation, avec un enjeu fort, autour de la recherche, la formation et l'innovation, la formation de tous les acteurs. Comment mieux faire en sorte qu'ils interagissent pour cette co-construction que j'évoquais tout à l'heure. Puis évidemment, besoin d'une cohérence politique, scientifique et technique. Si les trois ne vont pas de pair, on risque de ne pas atteindre les ambitions de transformation des agricultures que j'évoquais tout au début de mon intervention. J'ai presque terminé. Je voulais juste, puisque on a dit de quoi parle-t-on quand on parle d'agroécologie, je ne vous ai pas délivré de discours unique et de vérité sur l'agroécologie. Et je l'assume en citant cette phrase de Primo Levi. Méfions-nous de tous les prophètes, il vaut mieux renoncer aux vérités révélées et se contenter de vérités plus modestes et moins enthousiasmantes, de celles que l'on conquiert laborieusement, progressivement et sans brûler les étapes, par l'étude, la discussion et le raisonnement, et qui peuvent être vérifiées et démontrées. Je pense que je m'inscris dans cette dimension-là, et les conférences suivantes que je ferai seront plutôt dans cette vision-là que dans une vision prophétique. Voilà, je vous remercie pour la qualité de votre écoute.